Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
Bienvenue dans ce quart d'heure autour de l'économie congolaise et de ses enjeux. Jocelyne Moussaou-Pondé nous fournira les nouvelles du pays.
La Banque mondiale prête à appuyer l'AMIBA. Ce sont les conclusions d'une semaine de discussions entre les deux parties. En direct de Mbujimayi, dans deux minutes, pour en parler avec Julien Nyamouni de Mbujimayi, nous irons à Lubumbashi pour cette foire qui n'attire que les consommateurs de bière, de viande et de musique. Reportage de Paul Amounang à suivre dans la seconde partie de cette émission.
Une seconde partie qui reçoit Simon Tumawaku, président du conseil d'administration de Katanga Mining. Cette compagnie, cotée à Toronto et à Londres, s'empare du poumon de la Gécamine à Kolwezi avec 75% de parts dans une joint venture. C'est l'invité écho à suivre dans 10 minutes. Commençons par cette grève des fonctionnaires en Bandaka, Jocelyne.
Il s'agit des agents et fonctionnaires des divisions provinciales de la fonction publique. Ils observent une grève sèche depuis ce lundi 27 juillet. Ils revendiquent leur prime de fonction spécifique suspendue depuis 2002. Prime que leurs collègues du budget et des finances continuent pourtant à percevoir.
En Bandaka, toujours plainte également des agents de la société d'exploitation forestière Siforco.
La société est en arrêt depuis juin 2002. Et les travailleurs déclarent avoir été abandonnés à leur triste sort. Ils totalisent une année d'arriéré de salaire et sollicitent l'intervention des autorités compétentes pour décompter la situation. Yves Braquenier, PDG de Siforco, contacté par Radio Okapi, s'est refusé à tout commentaire.
Et tout est bloqué au port international de Matadi.
Conséquence de la grève de l'ONATRA qui se poursuit, le secrétaire général de l'Union des déclarants en douane affirme que depuis le début de ce mouvement, aucune entrée et sortie de véhicules n'a été enregistrée au terminal conteneur. La même situation est observée au port de Boma et de Banana depuis le mardi de la semaine dernière. Rappelons que les agents de l'Office national de transport réclament entre autres le départ du comité de gestion de cet office qu'ils qualifient de mauvais gestionnaire.
Et Dominique Mbongi Molon, ministre provincial de la culture, jeunesse et sport de la province de l'Équateur, est devant la Cour suprême de justice.
Et toutes les chambres réunies siège sur le dossier de ce ministre appréhendé vendredi à l'aéroport de Mbandaka avec des papiers monnaie d'une valeur de 50 000 dollars américains dans ses bagages. La Cour siège également sur l'affaire des détournements de salaire des fonctionnaires du mois de mars dernier dans les territoires de Mweka dont est accusé François Mutambai, ministre provincial de finances du Kasaï occidental.
La nouvelle économique au bout du fil.
On retrouve Julien Nyamouni en direct de Mbujimayi. La Banque mondiale accepte d'accompagner la minière de Bakwanga dans les processus de réforme, mieux la restructuration qu'elle a entreprise. C'est ce qu'affirme d'ailleurs la direction de l'AMIBA Mbujimayi, Julien.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'a affirmé d'ailleurs dans une déclaration à Radio Okapi, Madame Christine Toussaint. PAD à l'intérim de l'AMIBA, en fait la Banque mondiale a accepté d'accompagner le processus de restructuration de l'AMIBA, la minière de Bakwanga.
Et comme elle l'avait fait avec la SNCC. Alors, cet accord de principe de la Banque mondiale pour soutenir l'AMIBA, comment Bretton Woods entend concrètement aider l'AMIBA dans cette phase?
Dans cette phase, il faut d'abord souligner que la Banque mondiale a donné son accord de principe, je dis bien accord de principe, cela veut dire qu'il pourra donner à l'AMIBA, peut-être pas donner, mais financer les études de faisabilité de l'ordre pour un ordre de 2 500 000 dollars américains. Et ce montant permettra justement à faire ces études. Il s'agit entre autres d'étudier les actifs de la minière de Bakwanga, étudier également ou mettre en place les termes de référence de toutes ces études de faisabilité. Alors, donc, c'est en gros toutes ces études que la Banque mondiale a accepté de financer. Donc, c'est un pas important pour l'AMIBA.
Alors, est-ce que la Banque mondiale a promis un montant pour la réalisation de ces études?
Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut un montant de 2,5 millions de dollars américains que la Banque mondiale devra débourser pour soutenir exactement toutes ces études. Et là, comme il n'y a pas encore un accord formel signé entre les deux parties, donc l'AMIBA devra attendre, si vous voulez, les procédures habituelles qui sont appliquées à la Banque mondiale pour le début donc de ces études. Mais en tout cas, il faut rappeler que Madame Christine Toussaint a affirmé que la Banque mondiale a donné son accord de principe d'accompagner immédiatement. Immédiatement, c'est l'expression qu'elle a utilisée. Immédiatement, donc l'AMIBA, donc la minière de Bakanga, pour faire avancer très rapidement son dossier.
Immédiatement, on a retenu. Merci Julien pour ces précisions depuis Mbujima et où l'on suit Radio Kapi en FM sur 93,8 MHz.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Jocelyne Moussa Opondi.
Hillary Clinton en tournée dans 7 pays d'Afrique, ce sera la semaine prochaine, Jocelyne.
La secrétaire d'État américaine se rendra d'abord au Kenya où elle participera à un forum sur la coopération économique. Elle se rendra ensuite en Afrique du Sud, en Angola, en RDC, au Nigeria, au Libéria et au Cap-Vert, a précisé le porte-parole du département. Sa visite sera axée sur les liens entre investissement et croissance économique, ainsi que les occasions uniques offertes aux pays africains d'exporter des produits hors taxes vers les États-Unis.
Et Randgold Resources veut vendre certaines de ses actions pour entrer dans Moto Gold Mines.
C'est le bon moment pour investir en RDC, a déclaré Marc Bristow, patron de cette compagnie. Ce groupe minier sud-africain coté à Londres veut obtenir près de 500 millions de dollars avec Anglo Gold Ashanti pour entrer dans Moto Gold Mines. Moto Gold Mines, cette entreprise cotée au Canada et qui est en partenariat avec l'Okimo pour un projet commun de production d'or en Ituri. D'ailleurs, les discussions pour faire entrer Randgold dans ces projets devraient être finalisées le mois prochain.
Et la spéculation a dénaturé les prix du pétrole.
Estimation de l'autorité américaine de régulation des marchés des matières premières qui va publier un rapport suggérant que la spéculation a joué un rôle important dans les forts mouvements observés sur le marché pétrolier.
Merci pour toutes ces nouvelles, Jocelyne. Et s'il y en a qui viennent de nous rejoindre, bienvenue dans cette seconde partie de Écho d'économie qui se tourne vers le sud du pays.
Écho reportage.
L'éco-reportage à la foire du Katanga, dénommée Katanga International Show, elle a ouvert ses portes à Lubumbashi il y a quelques semaines. Les grandes sociétés y sont absentes. Une foire très peu rentable pour certains, sauf pour les vendeurs de bière et de viande. Paulin Munanga nous y amène.
La foire a été ouverte dans l'enceinte de l'école Madini de Lubumbashi. À l'intérieur, on peut facilement compter plus de 100 stands qui forment un cercle. Dans la plupart de ces stands, il y a de la musique et bien sûr différentes sortes de boissons qui coulent à flot. Il y a du whisky, du vin, de la bière, du boisson sucré, du jus. On y remarque aussi deux podiums pour les productions musicales, un ring de catch, un endroit pour jouer le billard et bien sûr plusieurs sortes de jeux pour enfants. Difficile de trouver une entreprise ou une société qui expose ses produits, excepté quelques stands des entreprises de communication. Dans certains stands, l'on remarque l'exposition et la vente des produits tanzaniens ou kenyans. Mais les tenanciers est-africains déplorent le manque de la clientèle. Ils remarquent que la foire est beaucoup plus favorable pour le divertissement. Témoignage.
Les gens ne viennent que pour la bière, la viande et la danse. Conséquence, personne ne paie nos produits alors qu'en venant, on pensait que ce serait comme chez nous, c'est-à-dire les gens dansent et paient les différents produits.
Les responsables de la foire reconnaissent cela et parlent de la publicité qui n'a pas été suffisante. Kaembeche Temba.
Peut-être un manque de publicité.
Je crois que c'est peut-être par manque de publicité ou soit encore ce sont les produits qu'ils apportent qui n'intéressent pas les Katangais. Nous chercherons peut-être à ce que nos télés sur place les filment et qu'elles aillent montrer chez eux où leurs compatriotes pourront acheter.
Certains tenanciers des stands qui affirment avoir versé 500 dollars américains pour avoir droit à un stand affirment aussi que la clientèle est très rare. Kaembe Shentemba rappelle qu'à la première édition, il avait un budget de près de 2 millions de dollars américains et n'avait rien obtenu comme bénéfice. Cette fois, il indique ne pas encore avoir une précision sur l'argent qu'il va dépenser. Kaembe Chetemba lance enfin un appel aux autorités du Katanga pour lui souder les coudes dans cette aventure car il se sent seul. Lubumbashi, Paulin Munanga pour Echo d'économie.
L'entretien de ce soir.
L'invité de l'économie ce soir est Simon Tumawaku, président du conseil d'administration de Katanga Mining. Katanga Mining qui vient de finaliser un contrat avec la GK Mine qui a abouti à la création d'une nouvelle société, Kamoto Copper Company. Alors, monsieur Simon Tumawaku, d'abord bonsoir.
Bonsoir.
Quelles seront les parts de la GK Mine et de Katanga Mining dans cette joint venture?
Oui, la nouvelle joint venture qui est en fait la fusion entre l'ancienne DCP et l'ancienne KCC.
DCP, je rappelle, c'est DRC, Copper and Cobalt Project.
Oui, et l'ancienne KCC qui est Kamoto Copper Company. Donc la fusion de ces deux entités donne la nouvelle KCC. Et dans cette nouvelle KCC, la GK Mine a 25% et Katanga Mining a 75%.
Alors GK Mine 25% seulement, alors que GK Mine donne Mashamba et Dikoulouwe, deux carrières à forte teneur de cuivre et de cobalt. GK Mine donne aussi le concentrateur de Kamoto. GK Mine donne l'usine hydrométallurgique de Luilu. Est-ce que ce n'est pas un contrat très déséquilibré?
Pas du tout, parce que rappelez-vous que dans les deux joint venture précédent, la répétition des parts était toujours de 75-25. Donc la fusion n'a fait que consolider les deux entités parce que les financiers, donc le partenaire Katanga Mining, doit amener tout le financement possible pour amener la nouvelle entité à produire dans une première étape 150 000 tonnes de cuivre. Et puis par après 300 000 tonnes de cuivre.
Oui, monsieur Simon Tumawaku, vous parlez de financement, mais les gisements, il y a le concentrateur qui est déjà là, construit de la GK Mine. Ça passe du concentrateur à l'usine hydrométallurgique qui est aussi là, de la GK Mine. C'est comme qui dirait, les parts de la GK Mine sont vraiment diluées.
Pas du tout. Pour votre information, cette joint venture a commencé en 2006 et comme vous parlez des gisements, aujourd'hui, si vous avez des gisements sous le sol, tant que vous ne mettez pas les équipements nécessaires pour pouvoir exploiter, etc., ça ne vaut rien. C'est pour ça qu'on dit nous sommes potentiellement riches au Congo, mais tant que nous ne mettons pas en valeur nos richesses, nous resterons toujours pauvres.
Quand vous parlez de financement, qu'est-ce que Katanga Mining apporte d'autre qui élève sa participation à 75%?
Il y a le financement, comme je vais le dire. Il y a aussi l'expertise dans la gestion de la mine et aussi l'achat de tout l'équipement pour justement amener le projet à produire 150 000 tonnes dans la première étape et 300 000 tonnes après.
Et c'est tout ça qui manquait à la GK Mine?
Vous savez très bien l'état dans lequel la GK Mine se trouvait déjà en fin 90. Elle ne produisait plus. Il fallait poser la question à ce moment-là. Pourquoi la GK Mine ne produisait plus? Pourquoi la GK Mine de 470 000 tonnes qu'elle produisait est tombée à 20 000 tonnes?
Et le projet, il fera combien d'années?
C'est un projet qui est à longue durée. La première période sera de 30 ans à peu près et on verra à ce moment-là s'il y a encore des réserves pour pouvoir continuer le projet. Et donc, à l'heure actuelle, on a estimé qu'à 150 000 tonnes par an, le projet peut durer une trentaine d'années. Et la teneur en cuivre est à peu près 4,5% et en cobalt 0,4 à 0,5%.
En tout cas, merci beaucoup Simon Tumawaku de nous avoir parlé dans cette émission Écho d'économie.
Merci beaucoup.
C'est avec vous donc que nous terminons Écho d'économie réalisé par Daniel Tambizo Niberi, Lucha Kakaziragi Kazadi, sous la supervision de Martin Sebujangwe, une mise en onde de Jean-Claude Siala. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.